Ah, Dieu est bon. Et venez, on vient de chanter Jésus, 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 Jésus. Il n'y a aucun nom, la Bible nous dit, aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Alors je ne sais pas à quel nom tu fais face. C'est la maladie, le découragement. Si tu es accablé par quoi que ce soit dans ta vie, tout ça, ça a un nom. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Aucun nom, aucune puissance, aucune autorité. C'est pour ça que Jésus a enseigné, nous a enseigné à prier que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Que son nom est saint. Le mot saint veut dire qu'il est au-dessus de tout. Rien ne peut être comparé à lui. Quand Paul dit que le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, en fait, littéralement, c'est dit comme ceci. Le nom de Jésus est bien, 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 bien au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En fait, il n'y a pas de comparaison possible. Et on vient de chanter et de libérer dans l'atmosphère le nom de Jésus. Alors, approprie-le-toi pour ta propre situation. C'est comme ça que ça marche dans le monde de l'esprit. On s'approprie le nom de Jésus. Et j'ai envie de dire mieux, Jésus nous a donné le droit d'utiliser son nom. On a le droit d'utiliser son nom. Alors, qu'est-ce qui peut nous résister? Où sont les plus que vainqueurs que le sang de Jésus a rachetés? Il est temps que l'Église se lève en vainqueur. Et je sais qu'on passe tous par des moments difficiles, on l'a chanté, oui, on est tous humains, on a tous une réalité. Mais dans l'esprit, on est plus que vainqueur. Donc ce qu'il nous faut apprendre, c'est amener cette réalité dans notre quotidien. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, c'est pour ça qu'on a besoin d'être enseigné, c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, pour apprendre comment Dieu fonctionne. Pasteur Mathieu a dit quelque chose de très puissant il y a quelques temps. Il y a beaucoup de choses puissantes qui sont dites. Mais il y a une chose que j'ai retenue en particulier. Il a dit en fait, une des causes majeures pour lesquelles on ne rentre pas dans notre pays promis, où on ne se saisit pas des promesses de Dieu, c'est qu'on ne sait pas comment Dieu fonctionne. Alors certains vont dire, mais c'est pas possible, Dieu est trop grand, personne peut le comprendre, personne peut le sonder. Oui, je sais à quel verset vous pouvez faire référence. Mais il est possible de comprendre Dieu. C'est pour ça qu'on a la Bible. Le but de la Bible, c'est de comprendre son cœur et de comprendre comment il fonctionne. Il y a des lois dans le monde de l'esprit. Et ces lois ne peuvent pas être violées. Que je les connaisse ou que je les connaisse pas, elles s'appliquent. Et c'est pour ça que certaines personnes qui ne connaissent même pas Dieu peuvent être dans certains domaines bénies. Parce qu'elles ne le savent pas, mais elles appliquent les principes de Dieu. Et ils s'appliquent pour tous. Et bien sûr, ça a été designé principalement pour celui qui est devenu enfant de Dieu. Parce que Dieu a tout créé, a tout installé dans le monde de l'esprit pour notre propre bien, pour notre bénédiction. Il n'y a rien que Dieu a fait, que Dieu a institué pour nous faire du mal, pour nous détruire ou pour nous faire galérer. Absolument rien. Au contraire, tout a été fait pour nous protéger, pour nous bénir et pour faire en sorte que tous nous puissions progresser et prospérer. Alors ce matin, je ne sais pas si ce sera le dernier message ou pas, mais on est dans cette série Alerte. Et le titre de mon message, c'est Connecte-toi. Connecte-toi. Il y a vraiment un besoin de connexion. Le besoin de connexion, le besoin de communion fraternelle, de communion, c'est un fondement de la vie spirituelle. C'est un pilier qui ne peut pas être bougé. On a été créé pour vivre. Vous savez ça, qu'on a été créé pour vivre en relation? C'est la manière dont Dieu nous a créés. Dans le jardin d'Éden, un des seuls objectifs de Dieu, c'est qu'il voulait sur la terre un ami, plus tard avec la femme, des amis, avec qui il pouvait communier pour qu'il soit ses représentants sur terre. Donc Dieu voulait un ami à qui parler. Donc il a créé l'homme. Et nous avons été recréés en Jésus pour le même but. Pour retrouver la communion et la relation qui avait été perdue. Et cette relation, elle est avec Dieu, bien sûr, mais entre nous. C'est le but, c'est le but pour lequel on a été créé et c'est le but pour lequel on a été recréé en Christ. Et c'est vraiment un besoin fondamental pour notre propre croissance, pour notre propre développement, pour notre propre protection, pour notre propre provision. Bref, on a besoin de connexion, littéralement. Et d'ailleurs, c'est la mission que Jésus a donnée à l'Église, vous la connaissez, la seule mission qu'il a donnée à l'Église, de faire de toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples, des disciples. Et ça ne peut se faire que par la relation, ça ne peut se faire que par la connexion et par la communion. Alors quand on parle de communion, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la communion. La Bible a beaucoup à dire sur la communion. Mais il y a la communion, bien sûr, tangible avec Dieu. Et celle-ci, bien sûr, c'est le fondement de tout ce que je peux vivre dans ma relation, bien sûr, avec lui, dans ma relation avec mes frères et sœurs, et dans tout ce que je fais dans ma vie au quotidien, ma relation avec Dieu. C'est la base de toute efficacité. Pas de relation avec Dieu, tout va être limité dans ma propre vie. Et ensuite, bien sûr, il y a la relation, la communion avec son corps. Parce que Dieu, et c'est cela que j'aimerais vous partager ce matin, Dieu ne fonctionne jamais sur terre sans son corps. Nous sommes, en tant qu'Église, le corps de Christ. Et c'est une pensée incroyable, les amis. Christ est assis à la droite du Père. Mais Jésus est encore sur terre. Nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire la manifestation tangible de Jésus sur terre. Jésus marche encore sur terre, au travers de son corps par son esprit. Donc c'est la continuité même. Il y a des versets fous dans la parole de Dieu en fait qui dit que l'Église est la plénitude de Dieu. Son corps, nous sommes le corps de Christ. C'est pas une image spirituelle ou une représentation ou une allégorie, c'est une réalité. Nous sommes le corps de Christ. Et donc, c'est bien sûr la communion de l'Église universelle, de tous ceux qui croient en Christ. Nous sommes un, l'apôtre Paul nous dit, en esprit. Mais ça se manifeste par quelque chose de tangible. Cette connexion avec l'Église locale qui est profondément le cœur de Dieu. L'Église locale qui va se manifester elle-même par des choses très concrètes, des rassemblements, des choses, des échanges. Et tout cela pour des buts bien précis. Et j'aimerais qu'on voit un but ce matin, parmi tant d'autres, mais un qui est très important. On est dans cette série alerte aussi, donc j'aimerais voir le côté aussi, bien sûr, ce que la parole de Dieu nous enseigne, mais aussi le côté alerte, le côté danger de ne pas vivre ce que Dieu veut que nous vivions au travers de son corps. Alors j'aimerais qu'on lise Actes 9, à partir du verset 3, c'est la conversion de Paul. En général, on connaît bien ce passage, mais c'est vraiment en tout cas quelque chose, je crois que le Saint-Esprit a mis à cœur pour nous ce matin. Et je veux le dire par sa grâce, c'est un principe spirituel qui m'a protégé. C'est un principe spirituel qui m'a préservé. Et c'est un principe spirituel qui m'a aussi encouragé et relevé, particulièrement cette dernière année. Et je voudrais aussi remercier Mathieu, Romaric, particulièrement Romaric, que je apprends à découvrir depuis quelques temps maintenant. Mais il y a vraiment une puissance dans la connexion et il y a une puissance dans la communion. Et vous allez voir laquelle. Sans ce principe-là, je vous le dis avec toute honnêteté et franchise, j'aurais pu sombrer. Je ne dis pas que c'est uniquement cela, mais ça a largement contribué au fait que je sois devant vous ce matin. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. On peut répéter cela ? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. » Car il prit. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Un bel appel. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Au même instant qu'il y a eu cette connexion. Il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, première chose que j'aimerais vous partager ce matin, c'est pourquoi la communion, pourquoi la connexion pour l'illumination. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je vais, par sa grâce, essayer de le rendre le plus pratique, pragmatique et simple possible. Au verset 8, voici ce qu'il est dit de Paul. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Un face-à-face avec Jésus. Lorsque je rencontre réellement Jésus, et je ne parle pas du face-à-face qu'on a eu quand on a donné notre cœur à Christ, je parle de tous les face-à-face qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes supposés avoir avec lui. C'est face-à-face. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, ça va te sortir de la dimension naturelle. Ça va, bien que tes yeux soient ouverts, te rendre aveugle à certaines choses. Et il y a une raison pour cela. Parce que la révélation de Jésus, ou tout ce qu'il te révèle dans l'esprit, c'est quelque chose qui ne peut pas être appréhendé par notre raison ou par nos circonstances qui nous entourent, par les choses ici-bas, humaines. Donc il y a une raison pour cela. Mais il ne faut pas occulter le fait que ça va m'aveugler à certaines choses. Et toute révélation, tout fonctionne dans le royaume de Dieu par la révélation. C'est l'étape numéro 1. Tout se passe par la révélation du Saint-Esprit. Comment j'ai appris à connaître Christ et comment j'ai donné ma vie à Christ, le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai une révélation de qui était Christ pour moi et j'ai une révélation de qui j'étais et du besoin que j'avais. Et tout dans la vie chrétienne est une question de révélation. Alors, on reçoit tous des révélations. Un verset qui prend vie, une prophétie qui t'est donnée, une promesse que tu reçois, que tu saisis, une vision, un rêve. On reçoit tous, sous différentes formes, des révélations, parce que la foi se base sur la révélation. Donc si j'ai pas de révélation, il ne peut pas y avoir vraiment de foi. Bien sûr, à commencer par la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit te révèle dans sa parole. Donc, on reçoit tous de révélations dans notre vie. Mais cette révélation doit automatiquement passer par le stade de l'illumination, c'est-à-dire de la compréhension spirituelle de ce que j'ai reçu. Il faut que je comprenne ce que Jésus, ou ce qui m'a été révélé, par le Saint-Esprit. Parole, encore une fois, prophétie, promesse. Pourquoi ? Parce que le but de la révélation, le but de ce que j'ai reçu, le but de ce que tu as reçu, c'est qu'elle soit vécue. C'est qu'elle prenne forme. Sinon, il n'y a aucun intérêt à la révélation. Si la révélation reste révélation, elle n'est utile pour personne. Il faut que la révélation soit incarnée. Qu'elle passe par le côté pratique de qui je suis. Donc tout ce que je reçois de la part de Dieu, il faut que ça prenne vie, il faut que ça prenne forme. Mais entre la révélation et l'incarnation, il y a le processus de l'illumination, de la compréhension des choses. Alors comprenez bien ceci, le but de toute révélation, je le redis, c'est qu'elle soit vécue, c'est qu'elle soit incarnée. Et toute révélation doit devenir chère au travers de ma vie, pour qu'elle puisse être vécue, qu'elle puisse être tangible. Et le but, c'est quoi ? C'est qu'au travers de cela, lorsqu'elle est vécue, les cœurs autour de moi sont attirés vers le Père. C'est la raison pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu, a été fait chair. Pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse entendre. Et pourquoi ? Quel était le but de Jésus ? De nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour nous montrer le Père. Mais il aurait pu, de son ciel de gloire, crier « Je suis le Sauveur, repentez-vous. Non, il fallait que cette parole de vie devienne chair pour que les gens puissent voir, s'identifier. Donc Jésus, c'est l'exemple suprême. Et donc pour que une révélation du ciel soit transmise et reçue, parce que la révélation, elle n'est pas pour moi, ça c'est autre chose aussi au sujet de la révélation, elle n'est pas pour moi, elle est pour les autres. Il faut que les cœurs soient attirés au Père. Donc il faut que la révélation, quelle que soit la chose que j'ai reçue, prophétie, promesse, un verset, tout, il faut que ce soit transmis. Elle doit être incarnée pour cela. Il faut qu'elle passe par ma chair. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire ceci. Tout ce que nous avons vu de nos yeux, tout ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Donc, il ne peut pas y avoir de communion réelle si on n'est pas passé par ce stade de la compréhension pour que ce que nous avons reçu différemment les uns les autres, on puisse réellement l'incarner avec la compréhension de ce que nous avons reçu. Alors, c'est pourquoi je vous dis que c'est important. Par exemple, Paul va dire dans Éphésiens qu'il prie pour l'Église et il prie que nous soyons tous remplis d'un esprit de sagesse et de révélation et de sagesse. Pourquoi ? Pour que nos yeux soient illuminés. Et après, il va dire pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Pour cela, nous avons besoin que nos yeux soient illuminés. Et le mot illuminé, quand je vous parle de l'illumination, c'est un principe spirituel que Dieu a institué en fait. Et vraiment important, c'est le mot photizo. On a le mot photographie, photo qui vient de ce mot-là. En fait, ça décrit tout le processus de la photographie. Et quand vous regardez au vrai processus de la photographie, pas aujourd'hui, on a nos iPhones, etc., et on fait une photo instantanée, mais le vrai processus de la photographie, c'est quoi ? C'est une lumière qui pénètre dans un lieu sombre. En général, on parle de négatif, et on se met dans une pièce très sombre pour développer, on parle, les photos, les négatifs. On parle d'une lumière qui brille dans un lieu sombre et qui va nous donner une image claire et définie de la réalité. Ça, une photo. Donc quand on a une révélation, il nous faut l'illumination pour qu'on ait l'image claire, une image définie de la réalité de ce qu'on a reçu. Et c'est photizo, ça c'est une œuvre de l'esprit. Alors c'est quoi le danger, puisqu'on est dans cette série alerte ? Mais le danger, c'est le suivant. C'est que si j'essaye, on reçoit tous des révélations. On a tous des promesses, on a tous reçu des prophéties. On a tous le Saint-Esprit qui nous parle. Si j'essaye d'incarner ce que j'ai reçu de la part de Dieu, sans passer par le stade de l'illumination, sans passer par le stade de la compréhension spirituelle, bien mon expression, ce que je vais libérer, ce que je vais incarner, va être charnel, au mieux. Au pire, ça va créer la confusion et ça peut même détruire. La révélation, elle est divine. Ce que j'ai reçu est vraiment de Dieu. Mais mon expression, elle peut être à l'opposé de ce que Dieu souhaite. Il faut passer par le stade de la compréhension spirituelle. Toute révélation que je reçois, c'est pourquoi ? C'est pour servir les intérêts du cœur du Père. Restaurer, guérir, libérer, attirer le cœur au Père. Tout cela, c'est le but de chaque révélation. Mais je peux produire l'inverse. Combien de gens, d'hommes et de femmes, je parle dans l'Église, ont reçu littéralement des révélations de la part de Dieu. Et le fruit de cela, c'est la division. Le fruit de ça, c'est la destruction. Pourtant, on campe sur « j'ai reçu, je sais ce que j'ai reçu ». Oui, mais est-ce qu'on est passé par le stade de l'illumination pour avoir la forme et l'expression divine ? C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus va lui dire à un moment donné, Pierre, tu es heureux. Parce que ce que tu as reçu là, lorsqu'il a déclaré tu es le Fils de Dieu, c'est pas la chair et le sang, ça c'est une pure révélation que tu as reçue. Et quelques temps après, Jésus va leur dire, juste dans le même chapitre, Jésus va dire, bon, je dois aller à Jérusalem pour aller y mourir. Et là, littéralement, Pierre s'oppose à Jésus. Et de lui, il n'en sera pas ainsi. L'expression de ce que Pierre avait reçu était même satanique. « Arrière de moi, Satan », il va lui dire. Parce qu'il s'opposait au plan de Dieu. Il a empêché Jésus d'aller à la croix, qui était la mission que le Père lui avait donnée. Et pourtant, il avait reçu la révélation. Jésus l'a même témoigné. Mais son expression était folle. Il n'avait pas compris le pourquoi du fait que Jésus est le Fils de Dieu et le pourquoi il venait sur terre. Et donc son expression va être folle. Alors, on va revenir à notre texte pour le rendre vraiment pragmatique. Je voulais vous exposer en quelques minutes le principe spirituel. Maintenant, comment le vivre ? Pour Paul, c'est très simple. Paul a une vision de Jésus incroyable, conversion radicale, extraordinaire. Mais ses yeux sont ouverts, il voit Jésus, mais il est aveugle. Et Paul, on parle du grand Paul, qui a écrit, d'accord, 2/3 du Nouveau Testament, ce Paul-là avait besoin d'un Ananias pour que Paul retrouve la vue. Il avait besoin d'un Ananias. Alors au verset 6, il va dire ceci. Il a cette rencontre avec Jésus, il va dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc, remettez-vous dans le contexte. Paul tombe de son cheval. Hein. Paul, à cette lumière, il est métamorphosé. Il est bouleversé par la rencontre avec Jésus. Il se trouve à terre là. Et la première chose qui sort de sa bouche, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ça, c'est entre parenthèses, c'est pas forcément le thème de mon message. Mais c'est bien aussi de se jauger spirituellement, d'avoir des jauges, pas nos jauges à nous, les jauges que Dieu nous présente dans sa parole. Comment se jauger? Comment jauger ma relation avec Dieu? Ben, c'est très simple, en fait. Une des jauges radicales de la qualité de ma relation avec Dieu, c'est le service. Personne n'a enseigné Paul à ce moment-là qu'il fallait servir. Personne lui a dit, bon, maintenant, il va falloir que tu fasses quand même quelque chose pour Dieu. Il a rencontré avec Jésus, tout de suite, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? La conséquence naturelle d'une révélation de Jésus, c'est je sers. Et je sers qui ? Son corps. Je vais m'impliquer dans le corps. On va y revenir dans un instant. Et d'ailleurs, aussitôt, il dit, il prêcha. Aussitôt. Donc, quand je parle compréhension spirituelle, je ne parle pas de 10 ans de formation pour être prêt avant de faire ce à quoi Dieu t'appelle. Non, je ne parle pas de ça, je parle d'un processus spirituel qui fait en sorte que derrière, tu as une compréhension spirituelle de ce que Dieu t'a donné et de ce que Dieu t'a révélé, de ce que Dieu t'a promis. Il fallait cela pour Paul. Mais Jésus va faire quelque chose immédiatement. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que va faire Jésus tout de suite ? Il va connecter Paul. Alors j'ai une question. Est-ce que vous pensez que Jésus n'aurait pas pu libérer l'appel de Paul sur sa vie à ce moment-là? Est-ce que vous pensez que Jésus n'aurait pas pu révéler ou simplement lui dire à quoi il appelait? Lui révéler sa mission, son service, son ministère? Jésus ne l'a pas fait. Jésus a immédiatement cherché à connecter Paul. Pourquoi? Parce que la compréhension de l'appel de Paul, la compréhension du service de Paul, de sa mission sur terre, de ce que Dieu lui avait donné à ce moment-là, de cette révélation, cette compréhension ne viendrait pas par Jésus, mais elle viendrait par quelqu'un qui connaît Jésus. Et ça, c'est très important, parce que Dieu fonctionne avec son corps. Et Dieu fonctionne par son corps. Indéniable, Paul a une révélation de Jésus. Oui, personne ne peut lui enlever ça. Mais il avait besoin d'un Ananias pour comprendre ce à quoi Jésus l'appelait. Jésus, immédiatement, cherche à le connecter. Alors voici la vérité que j'aimerais vous donner ce matin, et qui est importante, et en même temps je prie pour le Saint-Esprit, vraiment, j'ai envie de dire, mettre des racines dans votre cœur pour que vous puissiez aussi, qu'il vous donne une manière pragmatique d'appliquer ce que je vous dis. Parce qu'il faut bien sûr le rendre pratique. Il faut que tout ce que je vous dis ce matin, ça devienne chair. Ça prend une vie dans notre vie. Voici la vérité. Tu as besoin du corps pour recevoir l'illumination dont tu as besoin pour vivre et pour surtout devenir la révélation que tu as reçue de Jésus. Parce que Jésus travaille toujours avec son corps. La compréhension de l'appel de Paul viendrait du corps. Jésus aurait pu le faire. Et c'est vrai que la première source de l'illumination, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là aussi pour nous faire comprendre des choses. Mais j'ai envie de dire, même si le chiffre ne représente rien, mais pour vous donner un peu, en tout cas, de ma compréhension à aujourd'hui, de mon expérience à aujourd'hui, de ce que je vois dans la parole de Dieu, je vais vous donner un chiffre pour un chiffre, mais 95% de l'illumination proviendra du corps. Parce que le Saint-Esprit travaille avec le corps et par le corps. Et Ananias, il est pas dit grand-chose au sujet d'Ananias. Il simplement dit qu'il était un disciple. Il n'est pas dit qu'il était un pasteur, un apôtre, un évangéliste. Il était un disciple. Et lui, Saul, il t'appelait Saul avant d'être Paul, était en mission contre les disciples. La Bible nous dit que Paul, il respirait la haine, il respirait la menace et le meurtre. Ça vous donne une idée un peu du caractère du personnage. Il respirait le meurtre, il était en mission contre les disciples. Et il persécutait à outrance les disciples. Et ça que j'aimerais vous dire aussi, pourquoi c'est important tout ce que je vous dis, parce que Satan fera toujours tout ce qui est en son pouvoir pour venir contre la mission que Jésus a donnée à son Église. Jésus a mandaté son Église de faire des disciples. Si Jésus a mandaté son Église de faire des disciples, alors Satan va tout faire pour faire des disciples sa cible de guerre. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que va faire Jésus ? Il va simplement le connecter à un disciple. Donc, Paul était en mission contre les disciples, et pourtant, c'est un disciple qui va lui révéler sa mission. Et ça, j'aimerais vous le dire, les amis, c'est extrêmement important. Parfois, on peut prier, et c'est bon, prions. On peut jeûner, et c'est bon, jeûnons. Et on cherche, mais Dieu, mais à quoi tu m'appelles ? Et tu m'as donné telle promesse, tu m'as donné telle prophétie, et je sais à quoi tu m'appelles, mais je ne sais pas vraiment quelle est ma prochaine séquence, quelle est ma prochaine étape. Cette compréhension-là, elle est enfermée dans un disciple. Je l'ai écrit comme ça, ta mission renferme toujours la notion de disciple. Toujours. Quelle que soit la forme à laquelle Dieu t'appelle ou l'expression que cela va prendre, il y aura toujours dedans la notion de faire des disciples. Sinon, tu peux vraiment mettre en question ce que tu penses avoir reçu de la part de Dieu. Il doit y avoir cette notion de faire des disciples. Et j'aimerais te le dire aussi, ta mission, parfois on cherche et on cherche et on prie et on jeûne, ta mission ou ce que tu as reçu, ou la compréhension de ce que tu as reçu, elle est cachée dans un disciple. Elle doit être libérée par un disciple. Verset 8, Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il faut pas oublier que, comme je vous l'ai dit, Saul était le leader d'une mission. Il avait toute une armée avec lui. Il était en mission contre les disciples. Il est persécuté, il est jeté en prison. C'était un grand leader, Paul. Encore Dieu n'a pas enlevé ça, d'ailleurs, après sa conversion. Ça a toujours été, dans sa personnalité, un leader. Et là, il se trouve à terre. Il est aveugle. Et on doit le conduire par la main pour aller quelque part. Ça, c'est ce que fait Jésus. À chaque fois que tu as une révélation de Jésus, à chaque fois que Jésus te révèle quelque chose, on peut checker ça. Check ce que ça produit dans ta vie. Parce que pour Saul, ça a tout de suite produit le brisement et l'interdépendance. Tout de suite. C'était le leader, il rencontre Jésus, on doit le conduire par la main. Donc, comment jauger aussi une révélation avec Dieu ? Est-ce que ça me pousse à me connecter ? Est-ce que ça me pousse à être pas dépendant des autres ? Mais à vivre dans l'interdépendance, dans la soumission réciproque. Parce que c'est comme ça que Jésus fonctionne. Chaque face à face avec lui, c'est quoi ? Notre conversion, c'est quoi ? Où c'est que ça m'amène ? À la repentance, au brisement. Je suis libéré de la captivité de l'ennemi. Il avait sa main sur moi. Je n'ai plus sa main sur moi, mais j'ai une autre main. Celle de Dieu. C'est ça la vraie liberté. En fait, je suis libéré de la captivité pour être captif de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul souvent se présente comme ça, esclave de Jésus-Christ, prisonnier du Christ. Pourquoi ? Parce que c'est la vraie liberté. C'est cela la vraie liberté. J'aurai toujours un maître sur moi. Toujours. Faut arrêter de penser qu'on n'aura plus un jour de maître. J'aurai toujours un maître sur ma vie. Faut choisir lequel. Mais la vraie révélation peut se jauger par le fait que je suis dans l'humilité, dans le brisement qui va me pousser à me connecter. Paul est conduit par la main. Alors, deuxième point, pourquoi tout cela ? Qu'est-ce que Dieu veut réaliser ? Qu'est-ce que Dieu attend ? Qu'est-ce que Dieu veut libérer au travers de la communion ? La communion, je l'ai dit, c'est un pilier de notre vie spirituelle. C'est dès notre création, récréation, et quand vous voyez l'Église des Actes, comment elle vivait, Ça fait partie des quatre piliers que personne ne peut bouger. Prière, enseignement des apôtres, fraction du pain, communion fraternelle. On peut pas enlever ça. Si on enlève un de ces quatre piliers, nous sommes spirituellement en danger. Parce que Dieu a prévu des choses, de libérer des choses au travers de ces piliers dans nos vies. Et parfois, l'ennemi, enfin souvent, l'ennemi va attaquer ça. Pourquoi il attaque ça ? Ce sont des piliers. S'il enlève un des piliers, nous sommes en danger. Donc il faut toujours veiller à cela. Et il y a des moments où l'ennemi va vraiment attaquer. Je l'ai vécu cette dernière année particulièrement. Ou si je m'écoutais moi, je ne sais pas si aujourd'hui je serais dans une église. Ça vous paraît peut-être bizarre, j'ai le micro ce matin et je prêche. Mais je suis honnête avec vous. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est faire ce que tu sais être vrai, même si tu n'en as pas envie. C'est ça la foi. C'est que tout en toi et tout autour de toi te dit « arrête », mais tu sais que Dieu a dit, donc tu fais. C'est tout simple en fait la foi. La foi, c'est pas faire ce que tu veux ou ce que tu ressens. La foi, c'est faire ce que Dieu dit. Et il y a des piliers que Dieu a installés dans notre vie. Alors, le deuxième point, la communion pour l'illumination. Ok, on va essayer d'aller un peu plus pratique. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de la communion ? Dieu veut libérer Damas sur ta vie. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Dieu veut libérer Damas. Ananias était à Damas. Et Paul était sur le chemin de Damas. Et Jésus va lui dire de rester à Damas. Parce que à Damas, il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias et qui va révéler à Saul sa mission. Mais bien au-delà, vous allez voir, verset 6, on relit ensemble. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 8, on le prit par la main, on le conduisit à Damas. Et au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Encore, je pense que vous, maintenant, savez qu'il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu, qu'un mot est un mot inspiré par le Saint-Esprit et qu'il n'y a rien qui est là juste pour faire joli. Tout est un message dans la parole de Dieu. Alors pourquoi Damas ? C'est quoi l'importance de Damas dans ma vie, dans ta vie ? Encore, je le redis, Saul était sur le chemin de Damas. Dieu lui dit, Jésus lui dit de rester à Damas et à Damas, il y avait un homme, un disciple, Ananias, qui devait libérer quelque chose dans la vie de Paul. Donc c'est quoi ce Damas ? Damas, si on regarde juste au contexte géographique, si on regarde à la carte, c'était littéralement dans un désert. Et Damas, c'est un oasis. C'est un oasis qui est extrêmement fertile, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, il y avait beaucoup d'oliviers, et c'était constamment abreuvé par deux rivières. C'est pour ça que c'était si fertile en plein désert. Damas, si vous voulez, c'est le lieu de l'onction. Damas, c'est le lieu de la révélation et c'est le lieu de la grâce. C'est le lieu de l'illumination, cette rivière qui coule. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer dans ma vie, je l'appelle cela Damas, et ça se fait au travers des relations. Ananias et Paul étaient à Damas à ce moment-là. Jésus aurait pu lui dire de rester n'importe où, mais il lui a dit de rester à Damas. Parce que la connexion divine du corps va libérer Damas sur ta vie. Alors, c'est bon, vous expliquer ce que c'est. Vous connaissez le psaume 133 qui dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, d'être ensemble, en unité, en communion. Pourquoi ? Parce que le psaume nous parle de cette rosée. Ce psaume nous parle de l'huile. Et à la fin, il est dit, parce que c'est là, dans ce lieu de la connexion, dans ce lieu de la communion, que Dieu ordonne la vie et qu'il commande ses bénédictions. Il y a un lieu pour cela. Dieu veut que nous soyons dans un lieu. Va à Damas et reste à Damas. Il va dire aux 120, allez à Jérusalem et restez à Jérusalem. Il y a toujours un lieu. Et d'ailleurs, Jérusalem, à ce moment-là, est le symbole aussi de la communion. Les 120 ensemble dans la chambre haute. Ce lieu spirituel, c'est le lieu de la communion. C'est le lieu de la connexion. C'est là où Damas, l'onction, la rosée, la vie, la bénédiction, la grâce, c'est là où c'est libéré dans ta vie. Parce que c'est Ananias qui lui a dit quoi faire à Paul. C'est pas Jésus. C'est Ananias. Saul a reçu la révélation et Ananias lui a donné l'illumination, la compréhension. Et d'ailleurs, c'était quoi l'appel de Paul ? L'appel de Paul, c'était d'être un apôtre de Jésus-Christ, un ambassadeur de Christ, parmi les païens en premier. Il y avait une séquence dans l'appel de Paul. Regardez ce que Ananias lui dit, il y a une séquence. Et ce qui est très intéressant, c'est que Saul est devenu Paul. Et que Paul, c'est les païens qui lui ont donné ce nom. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que avant la révélation, il est Saul. Après la révélation et l'illumination, il devient Paul. Ça veut dire que ton identité, qui tu es, elle est connectée à ta mission. Elle est connectée à ce que tu as reçu de la part de Dieu. Quand je parle d'identité, bien sûr, notre identité, elle est en Christ. Mais elle s'exprime par ce à quoi Dieu t'appelle. Et quand tu es aligné avec cette mission, ça veut dire quand tu as reçu la compréhension de ce que vraiment tu as reçu par révélation à un moment donné de ta vie, et que tu es aligné et que tu incarnes ce pourquoi Dieu t'a appelé. Fini les frustrations. Fini le découragement. Parce que tu es aligné avec ce que Dieu t'a révélé. Ton identité, elle est connectée à ta mission. D'où l'importance du corps. Puisque l'illumination, je l'ai dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration dans nos vies. Parce qu'on n'est pas pleinement aligné, non pas parce qu'on n'a pas reçu, parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas pu vraiment s'aligner. Alors, je vous parle de cette connexion. Paul avait besoin d'un Ananias pour lui révéler son appel, sa mission, et pour lui redonner la vue. Rappelez-vous, hein, Paul est devenu aveugle pendant 3 jours. Donc il avait besoin d'un Ananias pour lui redonner la vue, l'illumination. Mais plus tard, il a eu besoin encore d'un autre homme. Il a compris le principe, Paul. Lorsqu'il n'y avait plus Ananias dans sa vie, Ananias était utilisé par Dieu pour une chose bien précise, mais après il s'est connecté à un Barnabas. Et il a marché avec Barnabas. Et là, son appel n'a pas simplement été révélé et compris, il a pris forme. Il a été manifesté. Il avait besoin d'un Ananias et il avait besoin d'un Barnabas. D'ailleurs, Barnabas est venu le chercher. Hein, parce qu'à un moment donné, il a eu la révélation, il a eu une première partie de la compréhension de son appel, mais les apôtres ne croyaient tellement pas en Paul qu'ils l'ont envoyé billet simple à Tarse. Et il y en a un homme qui a cru en lui. Cet homme, c'est Barnabas. Il est allé le chercher. Et après, ils ont marché ensemble. Et par cette connexion, Paul est devenu Paul. Paul est devenu le Paul qu'on connaît, par une connexion avec Barnabas. Alors, Ananias, que veut dire Ananias ? Parce que Jésus a connecté Paul à Ananias. Ananias veut dire ceci, celui à qui Dieu a fait grâce, ou Dieu fait grâce, ou celui à qui Dieu a donné gracieusement. Donc il y a une notion de grâce dans le nom Ananias. La grâce dont Paul avait besoin, parce que laissez-moi vous dire, sans la grâce de Dieu, c'est même pas la peine de commencer. Même pas la peine, tout est grâce. Tout est grâce, et s'il y a une chose dont j'ai besoin dans ma vie spirituelle, ici-bas, dans ce monde, c'est de la grâce de Dieu. Et il y a des mesures de la grâce de Dieu. Mais il y a une grande mesure de la grâce de Dieu qui est libérée par le corps. Ananias veut dire Dieu fait grâce. La grâce dont Paul avait besoin pour son service, pour sa mission, pour ce à quoi Dieu l'appelait. La grâce dont tu as besoin, la grâce qui te positionne dans le corps. La grâce qui t'équipe. La grâce même qui t'encourage ou qui te donne l'énergie, la force de faire ce que Dieu te demande, elle est libérée par le corps. Et ça, c'est un principe qu'il nous faut absolument comprendre. Barnabas, Paul s'est après connecté à Barnabas. Barnabas, la plupart de vous, vous le savez, veut dire fils de l'encouragement. Fils ou celui qui encourage. Et pareil, c'est un autre synonyme de la grâce. C'est la définition même de la grâce, c'est ce qui te rend capable, ce qui habilite, ce qui te donne l'énergie, la force, ce qui t'encourage. Et laissez-moi vous dire, dans cette vie chrétienne, nous avons besoin d'encouragement. Pasteur Mathieu priait pendant la prière pour tous ceux qui étaient découragés. Laissez-moi vous dire, quand tu es connecté, tu es beaucoup moins découragé et tu rebondis beaucoup plus vite. Parce que c'est un principe spirituel, celui qui est encouragé. D'ailleurs, j'aimerais vous dire au passage, le vrai encouragement, c'est pas de passer 3 heures avec quelqu'un et de taper sur le dos et de l'entendre pleurer. C'est bien. Parce que c'est motivé par l'amour. Mais si j'écoute quelqu'un pendant 3 heures et que je suis là avec lui, et que je quitte, et que la personne reste la même, je l'ai pas encouragé. Je l'ai écouté. Alors c'est bien parce que ça commence par là. Mais le vrai encouragement va toujours te repositionner face aux priorités de Dieu pour ta vie. Toujours, toujours. Même si ça fait mal. C'est pour ça que Proverbe va dire que les blessures d'un ami vont te prouver sa fidélité. Le vrai encouragement, la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Ça fait pas trop du bien quand tu es brisé. Mais la parole de Dieu, avant de te transformer, avant de te rendre libre, elle te brise. Parce qu'elle vient contre tout ce que t'as pas envie de faire. Elle vient contre tous tes désirs, tous tes sentiments, tous tes ressentis. La parole de Dieu fait cela. Le vrai encouragement, Barnabas va te repositionner avec les priorités de Dieu pour ta vie. Il est allé chercher Paul. Paul aurait pu pourrir dans son lieu de Tarse. Non, non. Et un homme, et on parle, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas les moyens de locomotion qu'on a aujourd'hui. Il y est allé le chercher pour le ramener et le replacer face aux priorités de Dieu. Je ne sais pas ce par quoi Paul passait à ce moment-là. Peut-être que pour lui, c'était fini. Fini. J'ai fabulé, j'ai reçu un truc. Finalement, je ne sais pas ce que c'est quoi ce truc. C'est fini. C'est fini. J'ai plus d'appel, j'ai plus rien. Et personne ne m'accepte, on ne veut pas de moi. Mais il y a un homme qui a fait le pas. Et tu as besoin d'un Barnabas. Tu as besoin d'un Ananias. Parce que d'ailleurs, Paul aussi, au début de son ministère, est parti un peu, pas en vrille, mais il a vécu des galères à cause de son incompréhension de certaines choses. Il a vraiment eu besoin de connexion. Donc, voici ce que je veux vous dire. Il y a une mesure de grâce qui est grande, je le crois. Cette mesure de grâce qui équipe, qui te rend capable, qui est libérée par les relations dans le corps de Christ. Et a commencé par l'église locale. Dieu libère sa grâce au travers de son corps. Dieu fonctionne avec son corps. Et quand je parle de connexion, bien sûr, on va en parler juste, c'est ma conclusion. Quoi faire vraiment? D'accord? Comment vraiment se connecter? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment me connecter? Je parle pas juste, comprenez bien, je parle pas de connexion. Et on passe un peu de temps ensemble et je t'invite chez moi, tu m'invites chez moi. C'est bien. Il faut bien qu'il nous forme, d'accord? Ça commence par là. Je parle de connexion spirituelle profonde. Quelqu'un qui va être un canal de la grâce de Dieu pour ta vie et quelqu'un pour qui tu vas être un canal de la grâce de Dieu pour sa vie. Ça, c'est important. Ce sont des choses de l'esprit. Alors, voici ce que j'aimerais vous dire. Quand je parle de communion, bien sûr, entre frères et sœurs en Christ, à commencer évidemment par le couple. Il doit y avoir non pas simplement une connexion charnelle, une connexion émotionnelle, mais une connexion spirituelle. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que l'image que Jésus prend de sa relation qu'il a avec son corps, c'est le couple. C'est mari et femme. Et c'est pour ça qu'aussi Proverbe va dire que celui qui a une femme obtient une grâce de la part de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que la femme a cette capacité de libérer dans la grâce de Dieu dans la vie du mari. Et vice-versa. Et vice-versa. Le premier lieu de connexion où la grâce de Dieu peut couler et doit couler, c'est le mariage. C'est le couple. Et bien sûr, par extension, l'Église, puisque l'Église est composée de couples et de familles. Alors voici ce que j'aimerais vous dire, parce que on entend pas mal de choses aujourd'hui et on voit pas mal de choses aujourd'hui. Mais comment jauger ce que je vois? Comment discerner spirituellement les choses que j'entends, que je vois? J'aimerais vous dire ceci, comme ceci. Il est impossible d'être intime avec Jésus si je ne suis pas intime avec son corps. C'est impossible. Parce que, reprenez encore l'image du couple, parce que c'est vraiment l'image que Jésus lui-même prend pour exprimer la relation qu'il a avec son église, avec son épouse. Si je dis que je suis intime avec ma femme, avec la tête de ma femme, on a une connexion émotionnelle, on se comprend, on a une connexion intellectuelle, on partage des moments ensemble, mais que j'ai aucun moment d'intimité au niveau du corps. Est-ce que je suis vraiment intime avec elle? Ou inversement, si j'ai uniquement des relations sexuelles avec mon épouse et qu'il n'y a aucun échange, qu'il n'y a aucun partage, c'est quoi avoir de l'intimité avec le corps sans la tête? la prostitution. Et en même temps, dire que je suis intime avec la tête et je suis pas intime avec le corps, c'est de la fabulation. Fait que là, c'est impossible. Ça va de pair. Donc, regardez Paul. Il a une rencontre radicale, extraordinaire avec la tête, avec Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus le connecte tout de suite au corps. Parce que son intimité avec Jésus va se manifester par son intimité, sa connexion et sa communion avec le corps. Je le répète, Paul avait besoin du corps pour que son appel soit révélé et illuminé, et Paul avait besoin du corps pour que son appel soit pleinement manifesté avec Barnabas. Et la conversion, je finirai avec cela, la conversion de Paul, elle a été double, les amis. Et d'ailleurs, notre conversion, elle est toujours double. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mon cœur est touché, je me tourne vers Christ, Christ devient mon Seigneur, et comme je l'ai dit, Jésus va te connecter avec le corps. Quand tu t'engages avec Christ, tu t'engages avec son corps. Et c'est cela le baptême. Baptême, c'est quoi? C'est je m'identifie au corps de Christ. Mais nous, on s'imagine le corps de Christ sur la croix. Non, non. Nous sommes le corps de Christ. Donc tu t'engages avec le corps de Christ. Et ça a été vraiment doux parce que il est dit que tout de suite, lorsqu'il a eu cette conversion et qu'il a eu cette rencontre, cette connexion avec Ananias, il est dit que Paul est resté avec les disciples. Et c'est un principe qu'il a tout le temps pratiqué et mis en pratique dans sa vie. Parfois, il avait des révélations folles où il savait pas où aller, le Saint-Esprit l'empêche et d'un coup, il a une vision, il voit un homme, un Macédonien qui crie, viens à notre secours. Bon, il en déduit, je dois aller en Macédoine. Il y va, c'est la première fois où l'évangile arrive en Europe. Il y va et qu'est-ce qu'il rencontre? Un groupe de femmes. Il aurait pu se dire à ce moment-là, attends, j'ai reçu une révélation, je sais ce que j'ai reçu, c'est un homme, je vois pas d'homme. Non, pour Paul, le principe, le pilier de la communion était plus important que ce qu'il pouvait lui-même comprendre de sa révélation. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis avec des femmes et il a prié pendant quelques jours, ne sachant pas ce que Dieu voulait vraiment. Il est en communion, il prie et l'église de Philippe est née. Parce que Et on le voit dans la vie de Paul, il recherchait toujours la communion là où il y allait. D'ailleurs, il y allait toujours deux par deux au minimum. Mais il y avait toujours cette communion. Alors, quoi faire? Quoi faire maintenant? Là, ça va être un peu notre temps d'appel ce matin. Quoi faire? Parce que c'est bien gentil tout ça. On peut peut-être comprendre par la tête certaines choses qui sont plus ou moins nouvelles. Mais quoi faire maintenant? Nous sommes le corps de Christ et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors après la révélation, on l'a vu, Paul va recevoir une instruction de la part de Dieu. Lève-toi et entre dans la ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Et il va se trouver dans la maison de Judas et il va prier. On a de l'autre côté Ananias qui est un disciple, qui a une vision et qui malgré l'instruction de Jésus, parce qu'il est en pleine confusion Ananias, hein, on parle de Paul, le gars qui respirait le meurtre, va le voir. D'accord? Je comprends pas Jésus là, c'est un homme dangereux. Mais malgré cela, il obéit. Alors, quoi faire si je veux vraiment vivre cette réalité de la communion, de la connexion divine? Cette connexion divine, d'accord, elle relâche la grâce sur ma vie. Et c'est une œuvre de l'esprit. Donc, si c'est une œuvre de l'esprit, je dois faire des choses de l'esprit pour y accéder. C'est tout simple. Je peux pas le faire dans la chair. Je peux pas le manufacturer. Donc, c'est tout simple. Je vais rien vous apprendre ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vraiment j'aspire à cela dans le cœur et je comprends vraiment cette importance cruciale d'être connecté spirituellement pour que le canal de la grâce reste ouvert dans ma vie. Premièrement, je prie. Ananias prie. Paul prie. Et il jeûne. Paul, pendant 3 jours, il va ni manger, ni boire, prier et jeûner. Je vous apprends rien, mais c'est par cela que le Saint-Esprit aussi agit. Deuxièmement, il nous est dit qu'encore une fois, il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu, il est l'instruction de Jésus, il est à Damas et il demeure dans la maison de Judas. Judas signifie louange. Il est habité par la louange. Il demeure dans la louange. Alors, ça c'est important parce que ces derniers temps, le Saint-Esprit a mis beaucoup l'emphase sur l'attitude de reconnaissance, l'attitude de gratitude. Je vous le dis comme ça, c'est très difficile de se connecter et de vivre réellement la communion si je suis ingrat. Par contre, en fait, j'ai rarement vu des personnes connectées et ingrates. En général, ça va pas de pair. Par contre, si j'apprends toujours à ouvrir mon cœur, si j'apprends à être reconnaissant, si je développe cette attitude dans ma vie, ce sera beaucoup plus facile de me connecter, beaucoup plus facile. Cette attitude-là de reconnaissance, c'est super important. Pourquoi ? Parce que par définition, si je suis reconnaissant, c'est que je ne regarde pas à moi. Parce que c'est cela la reconnaissance, hein. J'enlève les yeux de moi. Parce que pour être reconnaissant, il faut quelque chose ou quelqu'un que je peux regarder, sur qui je peux méditer pour lui dire merci. Donc par définition, la reconnaissance enlève les yeux de moi. Et il m'est très difficile lorsque je suis ingrat ou lorsque, comme Mathieu le disait la semaine dernière, blessé, et que je me recentre sur moi. Parce que la blessure peut devenir très vite de l'orgueil. Parce que le centre, c'est moi. Je suis blessé, j'ai droit à cela. C'est l'anti-reconnaissance. Et donc il m'est très difficile de me connecter à ce moment-là. Mais la plus importante de toutes, prière, jeûne, louange, ça ce sont encore des fondements, des piliers dans ma vie spirituelle, mais la plus importante de toutes, c'est l'obéissance radicale. Parce que Paul obéit, il est aveugle, on le conduit par la main, et Ananias, malgré sa confusion ultime, obéit quand même. Et cette connexion divine, elle ne pourrait être possible que si les deux parties obéissent. Obligées. Donc, quoi vous dire ce matin, si ce n'est que tout ce que je viens de vous dire là, prière, louange, jeûne, obéissance, c'est quoi au final ? Ce sont des activités naturelles pour un disciple. C'est cela un disciple. C'est ça être un disciple et faire des disciples. Bien sûr, quelle que soit la forme qu'il va prendre, d'ailleurs Dieu ne donne pas de forme dans sa parole. Par contre, les piliers demeurent. Il faut rechercher ces choses-là. Rappelez-vous toujours ceci, ta mission renferme toujours la notion de faire des disciples et ta mission où la compréhension de ce que tu as reçu se cache dans un disciple. Donc il faut qu'on se connecte. J'ai besoin de communion spirituelle. J'ai besoin du corps. Tu as besoin, j'ai besoin, en quelque sorte, d'un mentor spirituel, de quelqu'un qui va être une source de la grâce de Dieu pour ma vie. Et j'ai aussi besoin de me déverser dans quelqu'un, d'être une source de la grâce de Dieu dans ma vie, dans sa vie. C'est comme ça que Dieu fonctionne sur terre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a décidé ainsi. Il a dit, vous prierez ainsi, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Est-ce que Dieu ne peut pas faire tout seul la volonté sur terre ? Il est souverain. Mais Dieu a choisi qu'il n'interférerait jamais dans nos affaires ici-bas sur terre sans notre accord. Alors, est-ce que vous avez de la puissance ? Ah oui, on en a de la puissance. Puisque Dieu lui-même ne va rien faire sur terre sans notre accord et consentement. En tout cas, dans ses plans de ce qu'il veut faire au travers de son corps. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Dieu est tellement grand que lui, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, il est capable de vivre en soumission réciproque, même avec son corps. Alors, voici les questions avec lesquelles je veux vous laisser ce matin. Peut-être, si tu peux venir, Fabien. Est-ce que, j'aimerais que tu prennes et que tu écrives ces questions dans ton cœur, tu peux les écrire sur un papier, c'est mieux. Mais en tout cas, que vraiment, que tu prennes un temps avec le Saint-Esprit. Et c'est pas quelque chose qui va, j'ai envie de dire, ça peut, parce que je veux pas limiter Dieu, mais c'est pas quelque chose qui va, tu vas répondre cela en 5 minutes. Mais, est-ce que tu as un Ananias dans ta vie ? Est-ce que tu as un Barnabas dans ta vie ? Ou est-ce que tu vis ta vie chrétienne un peu isolée ? Je viens le dimanche matin, c'est bien, on a un bon moment ensemble, et c'est honorable, parce que ça commence toujours par là. Mais est-ce que véritablement tu as un Ananias, quelqu'un qui peut libérer la grâce de Dieu sur ta vie, quelqu'un qui est capable peut-être même de te repositionner et de te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu veux entendre. Est-ce que tu es un Ananias, un Barnabas ? Autre question, est-ce que tu es un Ananias pour quelqu'un ? Est-ce que tu es un Barnabas pour quelqu'un ? Parce que Saul, lui, a eu un Ananias et un Barnabas, mais après, il a eu des Timothées. Il s'est aussi lui-même déversé. Quelle est la prochaine étape ? Quelle est la prochaine séquence de ton appel ? Quelle est la prochaine séquence de ce que Dieu t'a dit? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Et est-ce que tu es connecté à un Ananias, à un Barnabas qui pourra libérer la grâce de Dieu sur ta vie pour que tu passes à la prochaine étape? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a vraiment mis une richesse dans la communion fraternelle. D'ailleurs, le mot communion, dans la parole de Dieu, koinonia, parle d'association mutuelle intime. Ça parle de partenariat. Et ça va même jusqu'aux finances. Parce que le même mot est employé à chaque fois qu'il y a des offrandes volontaires, c'est le mot communion. Donc à chaque fois que je donne même une offrande dans la maison de Dieu, c'est une preuve de ma foi, c'est une preuve que je suis en communion avec mes frères et sœurs en Christ. Mais ça va même jusqu'à là. Et les amis, l'enjeu est de taille. Voici avec quoi je veux conclure. Sans redevabilité, sans soumission réciproque, il ne peut pas y avoir de réel impact. Il ne peut pas y avoir de réelle autorité libérée dans le monde de l'esprit. L'Église est une famille. Oui, ça on le sait. Mais l'Église est une famille en guerre. D'ailleurs, la première mention de l'Église dans la parole de Dieu par la bouche de Jésus lui-même, c'est que du vocabulaire de l'armée. C'est que du vocabulaire d'une famille en guerre. C'est un vocabulaire militaire qui nous donne les clés du royaume, qu'on a l'autorité de lier et de délier, qu'on doit contrecarrer les plans de l'ennemi et que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre l'Église. Tout ça, c'est du vocabulaire militaire. L'Église est une famille en guerre. Et l'enjeu est de taille, les amis. Notre rôle, ce n'est pas juste de nous réunir pour nous faire du bien. C'est une infime partie. Et Dieu, dans son immense bonté, dans son nature, bien sûr qu'il veut bénir ses enfants. Et bien sûr qu'il va bénir ses enfants. Et qu'il veut le meilleur pour nous et qu'il a le meilleur pour nous. Mais l'Église a une mission sur terre. Et il y a un combat spirituel. Et l'enjeu est de taille, les amis. L'enjeu, c'est les âmes. Ce sont les âmes. Et sans communion fraternelle réelle, sans connexion divine, on ne pourra pas accomplir la mission que Jésus a donné à l'Église. Pas de communion, pas de mission. Parce que Jésus a choisi que la mission, elle soit manifestée au travers du corps et par le corps. Donc l'enjeu est de taille, c'est le salut des multitudes. C'est vraiment le cœur de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit. Pierre va dire que Dieu n'est pas lent dans la réalisation de sa promesse, mais il est patient parce qu'il veut que aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Paul va dire à Timothée que Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et l'homme parce qu'il veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le cœur du Père. C'est le cœur de Jésus. Tous soient sauvés. C'est les multitudes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le royaume de Dieu, tout ce qui est fait avec le petit nombre, c'est pour le salut des multitudes. Donc ne cherchons pas les foules. Si Dieu amène les foules, gloire à Dieu. Mais ne cherchons pas les foules. Parce qu'il y a un principe, la communion réelle, divine, ne se vit pas à 100 000. Elle se vit dans un petit groupe. Et on le voit partout dans la parole de Dieu. Noé, pendant 100 ans, a obéi à Dieu malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré la méchanceté de sa génération. Il a obéi à Dieu. Et lui et sa famille, 8 dans l'arche. Sauf qu'il ne savait pas que ces 8 allaient sauver l'humanité. Littéralement. Parce que s'il n'y avait pas eu Noé, il n'y avait plus d'humanité. 8 ont sauvé l'humanité. Gédéon, 300 pour la victoire pour un peuple entier sur les Madianites. 300. Jésus va s'entourer de 12. En qui il va se déverser. Jésus est venu pour sauver l'humanité, mais il va prendre 12. Parce qu'il y a un principe dans la communion, en qui il va vraiment se déverser. Et les 12 vont saisir ce que Jésus leur a libéré et ils vont se retrouver à 120 dans la chambre haute, mais c'est très peu. Il y a des foules qui ont suivi Jésus, il y a plein de disciples même qui ont quitté Jésus. Ils vont se retrouver qu'à 120. Mais les 120 unis en unité, le Saint-Esprit descend. Et j'aime ce que pasteur Romaric a dit. La plus grande promesse que Jésus ait faite, le Saint-Esprit. La plus grande promesse que Jésus ait donnée, elle s'est réalisée, elle est devenue chair, alors qu'ils étaient non pas tous chez eux dans leur chambre, mais lorsqu'ils étaient tous dans le lieu de la communion, dans le lieu de la connexion. Et le Saint-Esprit a été donné pour qu'ils soient les témoins, l'évidence, pour attirer les cœurs au Père. La plus grande promesse même a été manifestée dans le lieu de la communion. Alors, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit vous dit en tout cas, mais je prie pour que vous puissiez réfléchir avec le Saint-Esprit. Vous savez qu'on a le droit de réfléchir avec le Saint-Esprit. On a le droit de méditer avec lui. On a même le droit de raisonner avec lui. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Bien sûr, prie, jeûne, loue, et qu'il t'ouvre les yeux. Tu as besoin de quelqu'un, et tu as besoin de ce quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'être la manifestation de Christ. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Alors, on va prendre un chant ensemble. Je ne sais pas si, en tout cas, le Saint-Esprit vous a parlé ce matin, mais je voulais vraiment vous donner ce principe sur Internet. C'était plus enseignement ce matin, donc on ne sera pas tout le temps comme ça, mais c'est un pilier qu'on ne peut pas ébranler. Rappelez-vous ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit. Ne négligez pas les rassemblements, les réunions de votre assemblée. D'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Donc on est dans la série Alerte. Un des signes de maturité spirituelle. Plus le jour du retour de Christ s'approche, et il est proche, et moins je vais négliger la communion. Et plus je vais mettre d'emphase sur le fait d'être connecté, de vivre la communion. Je vous l'ai dit, c'est un principe par sa grâce qui m'a protégé pendant plus de 20 ans maintenant, et qui m'a protégé littéralement cette dernière année. Il y a des choix qu'il faut faire, mais il faut collaborer avec le Saint-Esprit. C'est une œuvre de l'Esprit. As-tu un Ananias ? As-tu un Barnabas maintenant ? Et es-tu un Ananias ? Es-tu un Barnabas pour quelqu'un ? Et laisse Dieu dessiner la forme de ce que ça doit prendre. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut initier pour ta propre protection, pour ta propre croissance. Et ça va bien au-delà de quelques rassemblements le dimanche matin. Est-ce que tu as quelqu'un littéralement qui peut te reprendre dans ta vie ? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te dire là, t'es pas sur le bon chemin. Là, tu planes. C'est pas ce que Dieu t'a demandé d'être. Là, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Et est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'encourager ? Deux valent mieux qu'un. Quand tu es à terre, il te faut quelqu'un. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin de quelqu'un pour porter sa propre croix. Donc ne pensons pas que nous pouvons porter la nôtre tout seul. Jésus lui-même, quelqu'un est venu l'aider pour porter sa croix. On a besoin les uns des autres. La grâce de Dieu n'est pas une idée imaginaire, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. La grâce de Dieu, c'est très concret, les amis. Et elle se libère par la qualité de mes relations dans le corps. Je dois être en redevabilité. Je dois vivre la soumission réciproque, à commencer par le couple. Amen. On peut prier ensemble, si vous voulez vous lever. Pasteur Mathieu a prié ce matin pour ceux qui étaient découragés. Eh oui, c'est une des armes favorites de Satan. Mais c'est moi vous dire, quand tu es connecté, quand tu vis la communion, tu restes pas très longtemps découragé. Nous sommes tous humains, nous avons tous des moments de découragement. Le problème, c'est quand tu restes découragé, quand tu restes à terre, parce qu'il n'y a pas de connexion réelle. On peut tous être blessés. L'offense peut et va frapper à notre cœur, parce que c'est une impossibilité que ça ne se passe pas, Jésus a dit. Donc, l'offense va frapper à notre cœur, et elle peut le faire plusieurs fois par jour. Le problème, c'est pas que l'offense frappe en notre cœur. Le problème, c'est quand je choisis de rester offensé, de rester blessé, de rester découragé. Et parfois, c'est pas forcément un choix volontaire, c'est simplement parce que je suis seul. Et parce que je ne suis pas connecté. Et il y a une grosse partie de la grâce de Dieu, celle qui m'équipe, celle qui me fortifie, celle qui me rend capable, celle qui libère l'énergie dont j'ai besoin, qui est connectée au fait que je suis connecté à quelqu'un dans son corps.